Radar vient de détecter quelque chose.
Que voulez-vous dire?
Je veux en savoir davantage.
Qu'y a-t-il pour votre service?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Cinérama.
Je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Alors écoutez un peu.
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Je crois saisir.
Cinérama.
Je veux en savoir davantage.
Chronique, blind test, interview.
Alors c'est vrai. Tout est vrai.
Je vous envie horriblement.
Vous êtes formidable.
Vous devez être content de vous, j'imagine.
Moi, ça m'inspire.
Évidemment. Bonjour et bienvenue dans Cinérama. C'est un nouveau générique hein, pour ceux qui connaissent l'émission. Et puis pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, on va repréciser ce qu'est Cinérama. C'est une émission qui dure une demi-heure, une émission hebdomadaire, où il est question eh bien, de cinéma, évidemment. Nous parlons de films qui sont sur les écrans. Parfois, nous écoutons des réalisateurs, des acteurs, des actrices, des réalisatrices. Et puis, nous jouons aussi à des blind tests. Voilà pour la présentation de l'émission. Et puis, le générique n'est pas la seule nouveauté, puisque eh bien, l'équipe est recomposée avec un membre qui nous avait quitté pendant une année. Bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Et donc tu n'as pas supporté finalement d'être seul chez toi et tu es revenu dans l'équipe et on en est très content. Et d'ailleurs, eh bien, on va commencer par toi. De quoi tu vas nous parler pour cette rentrée?
Alors c'est d'un film italien qui s'appelle The Holy Boy, d'un cinéaste qui s'appelle Paolo Stripoli. Voilà.
Et puis toi Sofia, tu étais là la saison passée et tu es de retour.
Et oui, tout à fait. Et moi je vous emmène en Chine pour vous parler de Lettres d'amour de ma grand-mère, de Lan Hongshun.
Et puis toi Guillaume?
Moi je vous parlais de The Good Sister, mais aussi de la ressortie en salle de Terminator 2.
Et parler de Terminator nous permettra de finalement jouer un blind test autour de la filmographie relativement conséquente de Arnold Schwarzenegger. Mais nous allons commencer cette émission avec peut-être le film qui est présent sur le plus d'écrans en France pour cette rentrée cinématographique. Il s'agit de Trois Adieux, film d'Isabelle Coixet qui raconte eh bien, l'histoire d'une femme confrontée à la maladie et à la fragilité de l'existence.
Cinérama.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Chronique, blind test, interview.
Oh, je crois que je vois exactement ce que vous voulez dire.
Quand un film traite de la mort annoncée de son personnage principal, il arrive souvent qu'on ait affaire un mélodrame avec des pointes lacrymales. Alors ce n'est pas la trajectoire choisie par la catalane Isabelle Coixet qui adapte le roman autobiographique Tre ciotole riti per un anno di crisi de Michela Murgia, paru en 2023. Un ouvrage inspiré par l'expérience de l'autrice qui va disparaître peu de temps après sa publication. Alors ce qu'a aimé la réalisatrice dans cet ouvrage, c'est sa capacité à trouver de la beauté dans le quotidien et dans la vulnérabilité. Trois adieux est donc un film existentiel, entendez par là qu'il traite avec douceur de notre finitude et quoi en faire. Alors au tout début du film, il y a une image poétique des oiseaux qui volent par milliers, on appelle ça le murmure, et la voix off de demander pourquoi ils font ça, une réponse qui viendra pour clore le film. Mais avant cela, il y a une séparation, celle de Martha et Antonio. Alors elle se fait après une soirée courtée par Martha qui a toujours choisi de ne pas se contraindre à faire ce qu'elle ne voulait pas, une qualité qui avait tapé dans l'œil d'Antonio lors de leur rencontre 7 ans plus tôt, mais qui maintenant fait figure d'obstacle. Alors ça parle, et puis plus rien. Martha est seule, la voilà qui a perdu l'appétit, le fameux goût à la vie aussi. Tandis que lui, chef d'un restaurant dont la cote grimpe, bien qu'il se sente incapable d'aller vers une autre, se sent lui quand même beaucoup mieux. Prof de sport, Martha fait toujours du vélo comme une fugueuse, repère un collègue attachant et plein d'attention, mais il y a autre chose. Alors que sa sœur la conduit chez sa gastro-entérologue, les médecins repèrent un cancer au stade 4. Les chances de guérison ne sont pas vraiment comptées, un seul traitement semble valide, le corps médical ne donne aucune échéance. Alors j'avais même pas repéré que la bande originale c'était une espèce de vieux jazz tranquille. Alors que le film pourrait basculer dans le mélodrame, oui quand même, quitter puis atteindre d'un cancer irrémédiable, Martha, d'abord un peu interloquée, décontenancée, va rebondir, vivre peut-être comme elle ne l'a jamais fait. Alors il n'y a pas de grands élans musicaux qui accompagnent son quotidien dans lequel au premier abord, elle note sévèrement le restaurant de son ex et s'entiche d'un grand carton trouvé dans les poubelles représentant une star coréenne de la chanson comme si elle se montrait finalement infidèle. La mise en scène est d'une sobriété salvatrice, laissant pointer la légèreté, avec des images douces finalement d'une Rome loin des clichés touristiques. Martha choisit de ne pas sombrer. Se sachant vaguement finie, elle décide de s'ouvrir à la vie, de réhabiter son corps, se laissant aller au plaisir d'une glace trop grande, lâchant à son collègue qu'il lui plaît et l'invitant à dîner. Elle sait aussi faire la paix avec sa sœur, contenter ceux qui vont lui survivre sans exiger quoi que ce soit, sinon qu'on habite encore sa maison quand elle ne sera plus là. Trois adieux est un film patient porté par des acteurs bien dirigés, dont Alba Rohrwacher, qui incarne avec délicatesse et subtilité cette femme à qui la vie va échapper et qui la retient autant qu'elle peut. C'est une histoire simple, sans grands artifices, qui déjoue le mélodrame pour offrir un questionnement sur comment on doit célébrer la vie et accueillir la mort quand elle arrive bien trop tôt. Ce film, Trois adieux, est dans plus d'une centaine de salles en France. Un petit-fils part sur les traces d'une correspondance familiale vieille de plusieurs décennies. Nous parlons de Lettre d'amour de ma grand-mère.
Cinérama.
Parfait.
Alors qu'on se le dise d'emblée, Lettre d'amour de ma grand-mère est une grosse surprise. Un budget rikiki, environ 2 millions de dollars, un casting quasi intégralement non professionnel, un cinéaste inconnu hors de sa région natale. Et pourtant, ce troisième long-métrage de Lan Hongchung, originaire de Shantou, est devenu l'un des plus gros phénomènes de bouche à oreille du cinéma chinois de l'année, avec près de 300 millions de dollars de recettes mondiales. Après deux comédies familiales tournées en dialecte Teochew, Proud of Me en 2018 et Back to Love en 2022, c'est le premier film de Lan Hongchung distribué en France, importé ici par le distributeur spécialisé Trinity Ciné Asia. Le film s'écarte du registre comique pour s'ancrer dans une histoire méconnue en Occident, celle de l'émigration des populations chinoises du Sud vers le Nanyang, littéralement les mers du Sud, et notamment vers la Thaïlande, Singapour, la Malaisie ou le Vietnam. Et il s'appuie sur les Kiaopi, ces lettres accompagnées de mandats, donc d'argent, envoyées par les migrants à leurs familles restées au pays, aujourd'hui inscrites au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO. Un pan entier de mémoire collective, féminine et diasporique, que Lan Hongchung choisit de raconter, plutôt que de se frotter au blockbuster qui domine d'ordinaire le box-office chinois. Une leçon d'humilité, économique, doublée d'un geste aussi intime que politique. Xiaowei est criblé de dettes. La rumeur familiale veut que son grand-père, parti en Thaïlande dans les années 50 et resté injoignable depuis, ait fait fortune au point de financer des écoles là-bas. Xiaowei s'associe donc à son oncle pour aller lui soutirer sa part du magot, direction Bangkok. L'oncle lui conseille de fouiller d'abord dans les secrets d'Ama, la grand-mère, ses lettres et mandats Kiaopi, gardés cachés depuis des décennies dans le grenier pour y retrouver une adresse. Un jour, une lettre était d'ailleurs arrivée sans son enveloppe habituelle. Le facteur chargé de la cheminée était tombé dans une rivière en crue, emportant le texte, mais pas le cliché qui l'accompagnait. Sur cette photo, Ama avait cru reconnaître une nouvelle épouse et de nouveaux enfants, la preuve donc d'un remariage, d'un abandon. Elle avait alors cessé de lire ses lettres. Et pendant des décennies, elle va vivre avec cette certitude que son mari l'a abandonnée. Cette première partie menée tambour battant à le rythme d'une comédie d'arnaque presque cynique, mais le film va vite basculer. On quitte Xiaowei, le protagoniste principal, pour plonger dans le récit diégétique du jeune grand-père, que tout le monde surnommait Turbo d'Acier, alors juste père en exil, qui vivait en Thaïlande, de son tuk-tuk, et de Nanzi, la fille de l'aubergiste chez qui Turbo d'Acier avait trouvé refuge à son arrivée en Thaïlande. On comprend alors peu à peu ce que représentait vraiment cette photo mal interprétée. Le vrai geste de mise en scène de Lan Hongchung, c'est ce changement de focale, lâcher son narrateur contemporain, gouailleur et cupide, bien que bon, pour un récit historique porté progressivement en flashback successif et immersif par les femmes. Le montage signé par le réalisateur lui-même assume cette rupture de ton, sans transition molle, presque comme un passage de relais générationnel. La photographie à deux caméras et la partition installent une temporalité feutrée, très mélodramatique assumée, parfois trop, l'emphase un peu appuyée de la BO participe constamment constamment à souligner l'émotion, mais le malentendu autour de la photo est l'exemple parfait de la manière dont le film pense sa politique du regard. Ce qu'Ama a lu comme une trahison intime était en réalité une scène de transmission collective. Les enfants, qu'une petite école chinoise clandestine fondée par Turbo d'Acier accueillait et auxquels une langue et une culture étaient transmises, loin de leur terre d'origine. Le film multiplie ses échos entre l'école et les lettres à plusieurs mains, écrites donc par des écrivains publics, puis par Nancy, la fille de l'aubergiste, et dans les deux cas, il s'agit de maintenir un lien avec une langue, une culture, une mémoire, envers et contre l'exil. Ama aura passé des décennies à croire à un abandon qui était en réalité lié à un acte de solidarité diasporique, un contresens tragique, hein, terriblement révélateur de la manière dont l'absence à distance se remplit toujours des pires scénarii. Ce mélo a en fait une colonne vertébrale politique solide. Bon, on y parle d'un système migratoire où les hommes partent pour la guerre, la conscription, la survie, tandis que les femmes des deux côtés de la mer de Chine portent la mémoire, l'attente et souvent l'invisible sacrifice. Mais le film ne les réduit pas juste à des femmes qui attendent, hein, puisque comme je le disais, Nancy, la fille de l'aubergiste, devient elle-même actrice de cette transmission et va prendre le relais de l'écrivain public. On peut penser à The Farewell de Lulu Wang pour cette manière de faire du secret familial le moteur d'un récit diasporique. Ici, le secret n'est pas gardé par choix, mais causé par une rivière en crue, charriant un malentendu de longue date. Lettre d'amour de ma grand-mère est un mélo qui assume ses effusions et on lui pardonne quelques notes de piano un peu appuyées, car sous les larmes il y a une vraie proposition engagée, parce que ces lettres ne sont finalement pas seulement celles d'un homme à son épouse adorée, elles sont celles d'une famille à une communauté, d'une communauté à son histoire, et après avoir traversé la mer, les décennies et les frontières, elles arrivent jusqu'à nous. Leur plus belle destination était peut-être l'universel, car si l'exil a changé deux pays d'époque et de visage, il laisse toujours derrière lui les mêmes absences, les mêmes attentes, les mêmes liens qu'on tente de maintenir à distance. Ces lettres nous rappellent ainsi que derrière les grandes histoires de migration, il y a toujours des vies minuscules qui s'écrivent et qui méritent d'être lues, vues et entendues.
Lettre d'amour de ma grand-mère, un succès chinois et maintenant présent en France sur les écrans. Le retour en 4K et en 3D d'un monument de la science-fiction signé James Cameron, nous parlons de Terminator 2.
Cinérama.
Je vous demande pardon.
Chronique, blind test, interview.
Ça ne me surprend pas.
Hasta la vista, baby.
35 ans après sa sortie, Terminator 2, le jugement dernier, n'a toujours pas dit son dernier mot et revient au cinéma dans une nouvelle copie 4K et 3D. Alors c'est l'occasion de constater à quel point le film est toujours actuel et excitant, si on peut dire, comme un roman d'Isaac Asimov dopé au napalm. Terminator 2 a pourtant été fabriqué dans des conditions assez folles. Le scénario est écrit en quelques semaines, la pré-production est très courte pour un projet de cette ampleur, le tournage s'étale sur près de 6 mois et Cameron arrive en post-production avec seulement quelques mois pour terminer l'un des films les plus chers jamais produits en raison d'effets spéciaux qu'une personne ou presque n'a encore réalisé à cette échelle. Alors on pense évidemment au T-1000, en métal liquide capable de changer de forme, dont les transformations numériques vont marquer une étape essentielle dans l'histoire des effets spéciaux, sans oublier bien sûr les maquillages et animatroniques de Stan Winston et la poursuite dans le canal Los Angeles qui reste aujourd'hui encore une leçon de mise en scène. Cameron reprend le monstre du premier film pour en faire le héros du second, transforme Sarah Connor en guerrière tellement obsessionnelle qu'elle finit parfois par ressembler elle-même à une machine, et construit autour de John Connor une étrange relation filiale avec un robot qui apprend progressivement ce que signifie être humain jusqu'à réussir, dans les dernières minutes, à nous émouvoir.
Alors le plan c'est quoi ?
Ma mission est de te protéger.
Ah ouais ? Qui t'a envoyé ?
C'est toi. 35 ans après maintenant, tu m'as reprogrammé pour te protéger ici, dans cette époque.
Ça, c'est profond.
Contrairement à Aliens, True Lies ou Abyss, il ne s'agit pas ici d'une nouvelle restauration utilisant l'intelligence artificielle très controversée qui avait réveillé la colère des puristes. Ici, on repart de la restauration effectuée pour la ressortie 3D de 2017, supervisée par Cameron à partir d'un scan 4K du négatif original, mais le résultat n'est pas forcément beaucoup plus enthousiasmant. Alors je m'explique, le problème vient notamment du débruitage numérique appliqué à l'image qui a considérablement réduit le grain du 35 mm original. Terminator 2 a été tourné en pellicule par le chef opérateur Adam Greenberg et possédait donc un grain et une texture typiquement argentique. En voulant obtenir une image extrêmement propre et détaillée, les visages deviennent trop lisses, certaines textures paraissent presque artificielles et paradoxalement, plus l'image est techniquement impeccable, plus elle peut parfois sembler éloignée de la photographie d'origine. Alors ça ne veut pas dire que l'expérience est sans intérêt. La définition est spectaculaire, la 3D offre une autre manière de redécouvrir la mise en scène de Cameron comme pour la ressortie totalement réussie de Titanic, et surtout revoir Terminator 2 sur grand écran reste une évidence. C'est juste que c'est un film qui se méfiait de la fascination pour la perfection technologique, et que cette machine parfaitement lisse, brillante et sans aucune imperfection, le T-1000, ce n'était pas trop ça qu'on était censé soutenir.
Et bien en tout cas, la ressortie de ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Arnold Schwarzenegger. Le principe, 5 extraits, il faut trouver le titre, c'est parti.
Tu as tué mon père, tu as tué mon peuple, et tu as volé l'épée de mon père.
Oh, j'ai peut-être fait ça lorsque j'étais jeune. Il fut un temps, mon garçon, où je recherchais l'acier. Et l'acier était plus important pour moi que l'or ou les joyaux.
C'est trouvé, c'était facile.
Conan le barbare.
Eh oui, Conan, jeune cimérien réduit en esclavage après le massacre de son village, devient un redoutable guerrier. Devenu adulte, il part se venger. C'est vraiment le rôle qui a lancé la carrière de Arnold Schwarzenegger. Deuxième extrait, c'est facile aussi.
Vous êtes des chiffres molles. Vous manquez de discipline. Je peux vous dire que ça va changer. Je ne vais plus vous lâcher. C'est moi qui commande. Vous n'aurez plus vos mamans derrière vous pour vous essuyer vos petits papotins. Ah non, alors, il est temps de transformer ces mollusques en muscles.
Trouvé, facile.
Alors c'est idéal pour la rentrée, c'est un flic à la maternelle, oui. Yvonne Reitman.
Et oui, film de 90. Pour arrêter un trafiquant de drogue, le policier John Kimball doit infiltrer une école maternelle et se faire passer pour un instituteur. C'est un des premiers grands rôles où l'acteur exploite son potentiel comique, entre guillemets. Allez, troisième extrait.
Que voulez-vous, monsieur Quaid?
La même chose que vous, je veux me souvenir.
Mais pourquoi?
Pour redevenir moi-même.
Vous êtes ce que vous faites. Un homme se définit par ses actes et non par ses souvenirs. Venez, prenez mes mains. Maintenant, ouvrez-moi votre âme. S'il vous plaît.
Trouvé.
C'est le dialogue avec Watteau dans Total Recall.
Oui, film de 1990 avec notamment Sharon Stone, Douglas Quaid, un ouvrier qui rêve de partir sur Mars, s'offre des souvenirs artificiels d'un voyage qu'il n'a jamais effectué, mais l'expérience réveille des souvenirs qui semblent indiquer qu'il est en réalité un ancien agent de secret traqué par des puissants ennemis. Allez, nouvel extrait.
Y'a les gars de la sécurité routière qui veulent me carrer une fanfare dans le fion parce que vous avez bougé leur avion. Y'a le maire et le conseil municipal qui me broutent les roustons à cause du foutoir que vous avez mis sur la place. Tout le monde me tombe dessus. On me demande où est qui, comment et pourquoi. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Je fais juste mon boulot, c'est pas toujours simple.
À cause de vous, notre commissariat a la plus mauvaise réputation de tout le comté. Y'a les gens pas fait de la chambre de commerce qui se sont donné le mot pour me danser la lambada dans le couloir ralenti.
Radcliffe, vous ferez équipe avec Moustache.
Salut, Macaille. Ça te brancherait qu'on aille se dépucer ensemble?
Ne me touche pas, c'est compris, ratapoil.
Trouvé.
C'est le chef-d'œuvre de McTiernan, Last Action Hero.
Oui, film de 1993. Danny, un jeune garçon passionné de films d'action, reçoit un billet magique qui lui permet d'entrer dans l'univers de son héros préféré, Jack Slater. Parodie des films d'action de Schwarzenegger, en quelque sorte. Dernier extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Schwarzy.
Je crois que vous vous connaissez tous.
Salut les gars.
Salut. Salut.
Comment ça va?
C'est votre amant?
Mon quoi?
Faites attention à ce que vous dites.
Je sais très bien ce que je dis, j'attends seulement une réponse.
Eh bien, vous n'allez pas en entendre plus si vous ne vous excusez pas tout de suite.
M'excuser? Pour lui avoir rendu hommage?
Hommage? Vous l'avez insulté?
Une belle femme qui a un homme pour ami ne peut pas être autre chose que sa maîtresse.
Ne parle pas
autrement
comme ça.
Pour moi, ce n'est pas naturel, si elle ne l'est pas.
Très bien, vous l'aurez cherché.
Trouvé.
C'est Hercule à New York.
Oui, premier film
improbable, hein.
De Arnold Schwarzenegger en 1970. Hercule, fils de Zeus, est envoyé sur Terre et se retrouve à New York. On va s'arrêter là pour le descriptif du film.
Plus rigolo que l'Odyssée, il faut le dire quand même.
Oui, plus rigolo, oui. Ainsi s'achève ce Blindcast consacré donc à la filmographie d'Arnold Schwarzenegger, puisque nous parlions de la ressortie de Terminator 2. Changement d'ambiance avec un adolescent capable d'absorber la douleur des autres qui devient l'objet d'une étrange fascination. Nous parlons de The Holy Boy.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
Vraiment ?
Alors, découvert en fait à l'étrange festival, hein, The Holy Boy parvient à se frayer un chemin dans les salles, hein, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors après Classic Horror Story, Paolo Stripoli confirme son appétence pour un fantastique qui est rattaché à une tradition littéraire. Il incarne peut-être à lui seul là, une voix singulière au sein du cinéma de genre italien, et il s'empare donc d'un sous-genre, hein, le folk horror, développant ainsi un récit singulier qui frappe par son implication émotionnelle. Alors après un prologue sidérant, le générique s'ouvre sur les magnifiques paysages de la vallée des sourires, hein. D'ailleurs c'est le titre original du film, hein, je ne vais pas le traduire en italien. Alors situé dans les Alpes, hein, donc le héros, l'anti-héros plutôt, hein, Sergio Rossetti, professeur d'éducation physique et ancien sportif de haut niveau, débarque dans un petit village de montagne, Rémis, pour intégrer son nouveau poste. Il est accueilli comme un prince par les habitants. Sergio Rossetti se montre d'emblée irritable et agressif, alcoolique et dépressif. Il ne fait rien pour s'acclimater à la population qui, elle, par contre, fait preuve d'une empathie suspecte. Il n'arrive pas à surmonter en fait, le suicide de son fils dont il se sent responsable. Alors son attitude antipathique crée une dissonance assez atypique. Alors en général, le protagoniste principal se retrouve confronté à l'hostilité des autochtones, hein, qui voient d'un mauvais œil l'arrivée d'un étranger. Or là, le cinéaste expose un schéma inverse. Les villageois sont étrangement bienveillants. Ce dispositif déstabilisant suscite un malaise indécis mais cohérent au regard du récit. Et quand Sergio rencontre un élève solitaire, Matteo Corbin, qui se trouve être le cœur même de l'intrigue, sa vie bascule.
Benvenuto, professeur. Benvenuto a Remis. Vedrà, è la pace dei sensi.
Sans dévoiler tous les enjeux et ressorts dramatiques, hein, le The Holy Boy aborde la notion de résilience, mais aussi la déresponsabilisation que l'on peut éprouver à la suite d'un traumatisme. Alors ce jeune lycéen, hein, donc Matteo Corbin, hein, au corps frêle, tient tout le village sous sa coupe, consciemment ou non. Il absorbe les souffrances des gens au sens littéral, les vidant de tout affect. Ce déni collectif de la tristesse, perçu comme un don de Dieu, contamine un village qui flotte dans un bonheur insoutenable et surtout illusoire. Alors c'est pas tous les jours, hein, qu'on voit un film en fait d'horreur de surcroît qui s'empare en fait d'un sujet aussi passionnant, on va dire à la fois existentiel, philosophique et métaphysique, sur la place de nos émotions dans notre construction intime. Alors faut-il accepter et vivre avec notre souffrance ou trouver un moyen d'effacer ce qui nous encombre, nous empêche d'avancer? Alors le réalisateur choisit de répondre à ce dilemme et donc il tranche, hein. Paolo Stripoli feint l'ambiguïté pour mieux étayer un positionnement clair qui a aussi une résonance politique. En dévoilant ses intentions profondes, hein, ce conte pour adultes mute en pamphlet contre l'obscurantisme et le déni de réalité. Alors pour autant, il n'a rien d'un tract non plus anti-religieux, hein. Il s'inscrit plutôt dans une tradition morale où chaque individu doit faire face à ses responsabilités. Le réalisateur finit par humaniser Sergio, hein, anti-héros, qui devient de plus en plus attachant.
Ma lo sa che lei qui è già una star. Sono settimane che non parliamo d'altro.
Ma che ci avete tutti quanti in questo paese?
De cette nécessité de flécher puis harmoniser le récit, le film perd en mystère ce qu'il gagne en cohérence. En s'emparant du folk horror, le réalisateur creuse des thèmes passionnants. Il observe un village où les habitants sont sereins, mais sous l'emprise d'un jeune homme au pouvoir à double tranchant. Passé sa faculté d'absorber la souffrance des autres, il possède aussi la capacité de manipuler les esprits, autant ange réparateur que figure diabolique. Le film est à la fois une critique de l'aveuglement religion et une réflexion sur la culpabilité et la mémoire rempart contre l'oubli.
Come stai?
Io sto bene.
Alors, ambitieux et intelligent, hein, le film est quand même, a quand même pas mal de moyens par rapport à ce type de production. Hein. The Holy Boy bénéficie aussi d'une mise en scène élégante et précise. Alors, elle ne cherche jamais les effets chocs, toujours attentive aux détails et aux éléments insolites, alors, ce qui crée un sentiment d'inquiétante étrangeté dès l'arrivée de Sergio dans la petite bourgade. La durée des plans, le fait de s'attarder sur les visages des habitants, accentue cette atmosphère anxiogène. Alors, le soin apporté au cadrage, la splendeur d'une photographie aux teintes brumeuses et la tranquille assurance d'un découpage à l'ancienne imposent The Holy Boy, bah, comme une œuvre fantastique, essentielle. Le nouveau, d'ailleurs, le nouveau film du réalisateur est sélectionné, enfin, je le dis comme ça, au Festival de Venise, et apparemment, il change de genre, il est plus dans un thriller, et c'est peut-être un des réalisateurs italiens sur qui compter à l'avenir.
Ben, tu seras vigilant, j'imagine. Une sœur tiraillée entre son amour pour son frère et la vérité qu'elle doit révéler, nous parlons de The Good Sister.
Cinérama.
C'est exact.
Chronique, blind test, interview.
Ah, c'est vraiment surprenant.
Bon, décidément, on met bien les pieds dans le plat avec cette reprise, hein, avec des sujets très sombres, et c'est pas The Good Sister qui va mettre à mal la paix que vous avez peut-être réussi à acquérir lors de la pause estivale. Alors, pour son premier film, l'allemande Sarah Miro Fischer, hein, voit grand et grave avec l'histoire de Rose, une jeune infirmière qui traverse une période assez flottante, hein, de son existence. Elle vient de se séparer de sa compagne, ne sait pas très bien quelle direction donner à sa vie, et retourne vivre quelque temps chez son frère aîné Sam, ce grand frère rassurant auprès duquel Rose a pris l'habitude de revenir quand tout va mal. Cet exemple de refuge familial, hein, ce point fixe et rassurant de son existence va voler en éclats lorsqu'elle va découvrir qu'il est accusé de viol. Rose est convoquée par la police parce qu'elle pourrait avoir entendu quelque chose et à partir de là, tout ce qui semblait si solide et qui cimentait sa vie commence à se fissurer inexorablement. The Good Sister a tout, hein, pour devenir un vrai thriller avec en MacGuffin le fait que Sam est coupable ou non. Rose deviendrait ainsi notre point de référence, à la fois plongé d'un coup, hein, dans cette histoire hors norme et témoin investigateur à la recherche d'une réponse tranchée. La direction prise par la réalisatrice se révèle être beaucoup plus intéressante qu'un simple bon polar intimiste, mais pas moins angoissant. Alors, intimiste, hein, c'est bien le mot clé quand même à retenir, car tout va passer par cette sphère du privé, hein, entre ce qui lie Rose et Sam, à partir d'une question particulièrement inconfortable. Que fait-on, hein, lorsqu'une personne que l'on aime est accusée d'un acte monstrueux ? Alors, inconfortable, mais qui va faire tout le sel de ce qui va s'en suivre après l'accusation posée. Car ce type d'accusation ne concerne pas seulement ceux qui les reçoivent, hein, elle contamine tout ce qui l'entoure. Les souvenirs, les liens familiaux, la confiance et jusqu'à l'image que l'on avait de la personne et de notre relation avec cette personne. Peut-on trouver acceptable ou même comprendre, hein, qu'un être humain puisse à la fois être bon avec certains et un monstre avec d'autres ? Est-il concevable d'être doux envers certains et commettre l'irréparable envers d'autres ? Alors, ce questionnement est intéressant, hein, dans le cadre de The Good Sister parce qu'il est d'habitude réservé à un certain type de film, les films de guerre, hein, où on montre des soldats ou des généraux capables des pires actes, hein, mais étant de bons pères de famille, prévenants et doux à côté. Et cette question de la représentation et de ce que l'on étiquette monstre est particulièrement passionnante parce qu'elle lève un lièvre, hein, que l'art aide à comprendre, hein, ou tout du moins aide à apporter une réflexion, comme dans deux œuvres récentes, hein, L'ombre du commandant de Daniela Volker et La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Alors, même si je trouve le premier bien plus pertinent sur le sujet que le second, hein, les deux explorent le ressenti de l'entourage de personnes qui ont œuvré pour le pire, hein, de ce que l'humanité a pu produire. Et en les excusant ou non, voire en niant les faits pour certains, on voit que cet entourage a toutes les peines du monde à voir, hein, vouloir voir ou même à imaginer l'ombre d'un monstre dans l'âme de ce proche, hein, qu'ils ont tant aimé d'une certaine manière. Alors The Good Sister refuse la facilité, hein, qui consisterait à faire apparaître soudainement Sam comme un monstre, justement, hein, parce que ce serait finalement rassurant. Hein. La réalité qui vient frapper à la porte de Rose est beaucoup plus difficile. L'homme qu'elle aime et l'homme qu'elle découvre à travers cette accusation ne sont peut-être pas deux personnes différentes. Il va falloir en tirer une seule vérité. À travers cette situation, hein, Sarah Miro-Fisher a choisi un angle encore relativement peu exploré dans les films consacrés aux violences sexuelles, hein, à savoir celui de l'entourage de l'accusé. C'est l'occasion d'observer les mécanismes de loyauté, de déni, d'aveuglement qui peuvent se mettre en place autour de lui, car lorsqu'on croit la victime, il faut parfois accepter simultanément de perdre quelqu'un que l'on aime. Et du coup, notre propre remise en question par rapport à l'image de nous-mêmes, hein, que l'on s'est construite avec nos proches et qui nous définit aussi. On comprend donc que le sens du titre a une bonne sœur est multiple, une fidèle dans tous les sens du terme, un soutien, une adepte ou quelqu'un qui va apprendre à s'émanciper, à devenir elle-même en dehors d'un lien remis en cause par une horrible réalité.
Eh bien ce film, comme les autres, est en salle de Good Sister.
Bon, je crois qu'on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire.
Bah, qu'est-ce qui se passe?
Au revoir.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Je crois qu'il est grand temps de s'en aller.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Nous n'allons pas revenir là-dessus.
Non, écoutez...
Maintenant, je vais vous demander de vous en aller. Vous en aller.
Parfait.
On se retrouve la semaine prochaine avec évidemment des films. Toi, Manu, tu auras quoi?
J'aurai la reprise de Akira et puis un film qui s'appelle Flush, l'histoire d'un type qui a sa tête coincée dans des shots turcs.
Et toi, Sophia, peut-être moins rocambolesque?
Tout à fait. Je vous parlerai de La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet.
Et ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Léa Drucker. Et toi, Guillaume?
Je vous parlerai de Pressure.
À la semaine prochaine.